Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes accompagné de David, Rocket Ship et
Patrick Anctil. À Fréquence d'Outre-Tombe, on explore l'inexploré.
On explore l'inexploré. Je tiens à le dire.
C'est pas grave.
Et on explique l'inexpliqué.
On flirte avec le paranormal. Je voulais rendre justice au générique traditionnel. Ça va bien, David?
Yes, ça va très bien, Pat. Fait qu'on a une belle demi-heure pour explorer tous ces aspects du paranormal.
Très bizarre qui arrive dans la ville de Québec.
Exactement, alors que l'apocalypse actuelle est quand même bien avancée.
Oui. Quoi de neuf de ton côté?
Quoi de neuf de mon côté? Ben, j'ai commencé à fréquenter les skateparks, Pat. Fait que c'est ça qu'il y a de neuf. C'est ça qu'il y a de neuf de mon côté.
Bon, puis t'es-tu déguisé en momie, là, pour faire peur aux enfants comme à l'Halloween?
À l'Halloween, je vais me déguiser en momie, c'est sûr et certain. Pour l'instant, je suis déguisé en créature morbide d'Outre-Tombe, qui est à dire David Rocketship.
Super! Écoute, de mon côté, je sais qu'on parle souvent de films d'horreur en introduction. J'ai découvert un nouveau réalisateur, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Ken Russell.
Ken Russell, ouais. Vite comme ça, non?
Écoute, je le connaissais pas moi non plus.
Okay.
Je parlais à ma mère récemment, puis elle me dit ça tout bonnement, on jasait de cinéma, qu'elle était allée voir avec ses sœurs un film au début des années 70 et ça l'avait traumatisé.
Bon, ah ouais,
pas très très fan de films d'horreur à la base, mais quand même, ça l'a piqué ma curiosité. Et j'ai fait mes recherches et le film en question s'appelait Les Diables. C'est sorti en 1971 et j'ai découvert que c'était le film le plus censuré de cette décennie-là.
Ah ouais?
Ouais, ça a été produit par Warner Bros. Qui a produit en 71 Orange Mécanique, puis deux ans plus tard L'Exorciste en 73.
Ouais, c'est vrai.
Puis ils l'ont censuré lui aussi, mais L'Exorciste finalement, quand même quelques années plus tard, plusieurs années plus tard, ils ont ressorti la dite version censurée. Finalement, c'était pas si impressionnant que ça, les quelques minutes de plus qu'il y avait au film. Mais le film Les Diables de 1971, 50 ans plus tard, il est encore censuré. Il est très difficile à trouver, à voir dans son intégralité. Donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, là, s'il y a des bons streamers, là, moi, je suis pas le gars le plus habile avec ça, là, mais si vous pouvez trouver la version du film original Les Diables de Ken Russell, 1971, il faut voir ça. Là. Ça a l'air absolument
cool.
Macabre.
Puis pas seulement il faut voir ça, il faut que vous nous le dites parce que nous, on veut le voir.
Oui, exactement. Puis c'est ça, j'ai fait mes petites recherches sur le réalisateur et j'ai découvert qu'il avait fait toutes sortes de films dans cette décennie-là, expérimentaux, vraiment des films très étranges. Donc, je compte ardemment sur la réouverture de notre cher club vidéo Centre-Ville pour m'aider dans mes recherches.
Ah, c'est vrai. On regardera Pat pour le fun sur le
site web.
Centre-Ville, ils ont un bon répertoire. Là. Ça donne un bon moteur de recherche.
Oui.
Pour trouver les films. On pourrait aller voir ça. Ouais.
Super.
Cool. Donc, ce soir, on a quelques histoires à raconter, quelques histoires à faire. Pour ta part, Pat, qu'est-ce que tu nous as concocté?
Ouais, ben écoute, on va expliquer ce soir pourquoi certains artistes produisent des œuvres qui paraissent bizarres et étranges aux yeux de plusieurs personnes. Bon, puis on se fait souvent questionner, les gens qui aiment les films d'horreur, pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous racontez des histoires d'horreur? Bon, pour certaines personnes, ça sonne bizarre un peu, donc on va démystifier tout ça. Et de ton côté, David?
Cool. De mon côté, j'ai un personnage mystérieux qui fait de la route dans une vieille bagnole dans le désert du Mojave, dans le sud-ouest des États-Unis, puis qui dévale la route comme ça, là, dans les bleds paumés à la recherche de son prochain petit boulot. Donc, on va suivre notre personnage ce soir.
Yeah! Et on a-tu un radioton, nous autres, cette année? On participe-tu à quelque chose?
Oh yeah! Belle annonce que CKRL vient de faire il y a environ une semaine. Le radioton de CKRL aura lieu le dernier week-end de mai, donc les 28, 29 et 30 mai 2021. Le radioton, ben, l'objectif du radioton, habituellement, c'est d'amasser des sous.
Financer la radio.
Financer la radio. Puis c'est vraiment l'activité principale, le revenu principal de CKRL. c'est le Radioton, tu sais, fait que c'est quand même important à noter.
C'est donc important d'être généreux, car si vous voulez avoir des animateurs le lundi soir à 11h qui vous racontent des choses effroyables, il faut donner généreusement à CKRL.
Yeah, puis il y a d'ailleurs, c'est présentement la campagne de pré-abonnement, c'est-à-dire que si vous prenez votre abonnement, si vous vous abonnez à CKRL, c'est 25$ comme d'habitude, mais pendant le mois de mai, justement, c'est la campagne pré-radioton de l'abonnement, j'allais dire pré-abonnement, ben vous courez la chance justement de gagner des prix en lien avec le radioton. C'est donc un bon moment pour renouveler ou tout simplement acheter votre carte de membre de CKRL.
Yeah, donc plus d'annonces à venir à ce sujet éventuellement lors de nos prochaines émissions. Donc, est-ce qu'on commence avec ton histoire, David?
Oui, on peut commencer avec mon histoire sans problème.
Yeah!
Cette histoire s'intitule « Le motel ». J'avais roulé 14 heures cette journée-là, dans le désert du Mojave. J'étais parti du Nevada, direction sud, puis je traversais maintenant l'Arizona, dans une vieille bagnole rescapée d'un temps où l'essence coûtait moins cher que l'eau courante. Où la tôle était tellement épaisse qu'on aurait pu frapper mortellement un bison, puis revendre le char tel quel sans que personne s'en rende compte. Quatorze heures exposées à la chaleur la plus intense que le continent nord-américain connaisse. 14 heures passées, les fenêtres baissées avec l'air ambiant, aussi brûlant que l'intérieur d'un four quand t'ouvres la porte pour voir si ton opossum a fini de cuire. L'air cuisant qui pénètre dans le véhicule, qui cuit la peau, aidé par le soleil qui, sans aucune pitié, te rappelle que monter ta fenêtre n'est pas une option si tu veux pas que ce soit toi, l'opossum, qui cuit dans ta cage de tôle et de verre sous l'effet de serre. Une petite route, une voie dans chaque direction. C'est le boulot qui m'amène dans ce coin de pays, où la seule végétation, c'est un cactus de temps en temps, puis où il y a plus de vautours que d'humains au kilomètre carré, puis ils sont difficiles à différencier des fois. La vieille bagnole qu'on m'a confiée vibre, claque, fait un vacarme. Elle boucane noir quand j'ai le malheur de donner un peu trop de gaz. Je me demande même pourquoi on m'a donné cette vieille guimbarde qui surchauffe. On parlera même pas de l'air climatisé, je suis même pas sûr que ça existait quand on l'a fabriqué. C'est la voiture de courtoisie qui m'ont dit. Je me suis surpris à me dire qu'une chance qu'ils m'ont pas prêté un char d'arrogance. Des fois, je me demande si c'est pas exprès pour me faire souffrir un peu pendant que j'accomplis le seul travail que je peux encore accomplir. Me faire souffrir dans une grosse barge classique un peu déglinguée, ce serait le genre de considération artistique et philosophique du boss. C'est sûrement lui qui a décidé ça pendant que j'y pense. En direction de mon prochain client, je rumine tous les choix de vie et les mauvaises décisions qui m'ont mené jusqu'ici. Je me dis que ça aurait pu être pire. Que je devrais pas trop me plaindre au fond. En se raisonnant un peu, l'être humain s'adapte à tout, même à être prisonnier d'un boulot ingrat dans les conditions qui imposent la solitude et que tu peux pas changer. Mais ça pourrait être pire, comme je disais. J'aurais pu atterrir dans un 9 à 5 dans un bureau aseptisé et climatisé d'une compagnie d'assurance, genre. Un cubicule parmi mille autres avec des collègues qui parlent entre eux de la belle fin de semaine qu'ils ont passée avec leur petite famille heureuse. Arc, ça serait vraiment un cauchemar. Mais bon. Pendant que je me plains de la chaleur puis du vieux bazou dans lequel je me trouve, le soleil commence à tirer sa révérence pour la journée. « Salut les ploucs, moi je vais me coucher », qui dit. Mais pour être sûr qu'on y en veuille pas trop, il quitte la scène dans un spectacle de couleurs incroyables où le rose, le mauve et l'orangé du ciel et des nuages se fondent au sable et aux rochers rouges qui composent le paysage. Si vous avez jamais vu un coucher de soleil dans le désert, mettez ça sur votre liste puis ça presse. Attendez pas trop, la vie est courte. Puis on sait jamais à quel point avant qu'il soit trop tard. Il fait nuit, maintenant. Je roule toujours en direction de mon prochain client. Je viens de passer Saddlebrook. Sur un bout de papier, j'ai noté l'adresse du motel où on m'a ordonné de passer la nuit. Oui, comme je vous disais, j'ai pas bien de regard sur mes conditions de travail, pas même où je vais dormir. Il fait vraiment noir, là. Je suis à quelques dizaines de kilomètres du motel en question. Lui aussi, dans un bled paumé, comme tous les bleds paumés que je viens de croiser. Les bandes jaunes défilent à l'infini. Les phares jaunâtres et usés de mon vieux char me permettent à peine de voir 30-40 pieds en avant. Je suis fatigué. Tellement fatigué que je commence à cogner des clous. Puis que je pense que je rêve quand je vois, au loin, briller l'énorme enseigne de néon qui annonce le motel. Comme un oasis de lumière artificielle dans ce désert de noirceur. Je ralentis. C'est la bonne adresse. Le Hot Sands Inn. Le sable chaud. Si c'est une joke, je la trouve pas drôle. Le motel m'apparaît comme une extension du vieux char. Probablement construit dans le boom économique d'après-guerre, il semble avoir tenté de résister au temps avec plus ou moins de succès. Le béton est jaune et craquelé. Une fenêtre sur deux est soit fissurée, soit carrément condamnée d'une bonne vieille planche de plywood. La peinture qui essaie de recouvrir les cadres et les portes tombe en gale sèche. L'enseigne de néon, même si elle réussit à faire le travail, est plutôt défraîchie elle aussi. Puis elle grésille tellement fort que ça empêcherait probablement les voisins de dormir, s'il y en avait. La chambre est prépayée par la compagnie, mais je gagerais que ça coûte en bas de 20$ dormir dans ce taudis. Je parque le char, le moteur surdimensionné lâche un dernier soupir, content d'avoir enfin droit à sa pause bien méritée. Je sors du véhicule. Après avoir crevé de chaleur toute la journée, il fait étonnamment frisquet et un long frisson me parcourt le corps. Je suis pas certain si c'est à cause du changement de température ou bien à cause de l'étrange pressentiment que je sens. Je me dirige vers l'accueil. Mes bottes de cow-boy laissent leurs traces dans la poussière et le sable qui couvre le petit stationnement. J'entre dans le bureau d'accueil. Y a personne. Sans surprise. Sur le comptoir, il y a un bouton de sonnette, semblable à ceux qu'on trouve sur les portes des bungalows, avec un post-it. Si vous arrivez après 21h, sonnez. Ce que je fais. J'entends ce fameux ding-dong très lointain, comme si ça sonnait plusieurs pièces plus loin. Plusieurs minutes plus tard, et plusieurs coups de sonnette, je peux finalement entendre des pas qui s'approchent. La porte derrière le comptoir s'ouvre et un homme en sort. Je prends pour acquis qu'il est le propriétaire puisqu'il a l'air aussi minable que ce motel. Il est vieux. Il lui reste qu'une courte couronne de cheveux blancs, courbée vers l'avant, comme s'il croulait sous le poids d'une vie trop bien remplie, mais pas dans le sens positif du terme. « Je vous attendais », qu'il me dit, sur un ton suffisant, qui frôle l'insolence. « Vous étiez loin pour quelqu'un qui attendait », que j'ai envie de lui dire. Je me retiens. J'ai pas envie de causer une scène ici, et je laisserai pas mon orgueil risquer ma nuit de sommeil. Je le vois fouiller dans son armoire à clé, toujours derrière le comptoir, puis finit par sortir et me passer une clé, montée sur un énorme porte-clés qui porte le numéro de la chambre. 13. Fallait bien que je m'y attende. Je le remercie bêtement, sans courbette, puis je pars à la recherche de la chambre 13. Elle se trouve du côté arrière du bâtiment. Dès que j'ouvre la porte, une odeur infecte m'envahit les narines. Un mélange de pisse, de moisissure, de vieil alcool ranci et une autre note qui me semble si familière mais que je peux pas replacer sur le coup. J'ose à peine imaginer ce qui s'est passé dans cette chambre pendant toute l'histoire de ce bâtiment. Je peux sentir ici les âmes des personnes fuyant une situation ou une autre qui y ont passé une nuit tumultueuse sur leur route. Les cœurs brisés, noyés dans le bourbon bon marché jusqu'aux petites heures, les hommes mariés qui ont payé une escorte locale pour un petit rapide en plein après-midi, les bandits et les brigands recherchés ayant besoin d'un endroit anonyme le temps que la poussière retombe, et peut-être même les otages qu'ils avaient séquestrés. Au-delà de la pourriture et du renfermé, cette chambre sent aussi la rage, la souffrance et la douleur. Je vais à la salle de bain, je tourne la poignée du robinet, je me lance un peu d'eau fraîche dans le visage avec mes mains, ça sera tout côté hygiène personnelle, merci. Je retourne du côté chambre, j'allume la seule et unique source de lumière, une lampe de chevet, avec un abat-jour que même ma grand-mère aurait trouvé grotesque. Je me couche sur le lit tout habillé. Il n'est pas question que ma peau touche à ces draps-là. Pas que je sois dédaigneux, mais il y a des limites quand même. Je me couche sur le dos, le regard fixé au plafond. Puis une fois de plus, je fais le tour de mes pensées. Mon histoire, mon passé, ma femme, ma fille, qui me manque énormément. Je pense à la succession d'événements qui a mené à ma situation actuelle. Des fois, je me dis que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Que j'ai juste été malchanceux, victime des circonstances. Mais au fond, je sais très bien que les choses ont tourné ainsi parce que je suis qui je suis, avec tous mes défauts, dont mon recours rapide à la violence. Ma vie était relativement paisible. J'habitais la banlieue de Québec avec une femme en or que j'aimais et que j'aimerais toujours. On avait une fille, la prunelle de nos yeux. Elle avait 7 ans quand tout a chaviré. Elle revenait de l'école à pied et des fois, j'allais la chercher pour lui faire une surprise. Ce jour-là, je l'ai croisée à mi-chemin. Elle se faisait embêter par une gang de petits gars. Juste des petits morveux qui l'écœuraient, rien de vraiment dramatique avec du recul. Quand j'ai approché, ils étaient 4-5, en trottinette, à tourner autour d'elle. Un peu plus vieux qu'elle, je pense, ils devaient avoir 10-12 ans. Des calices de trottinette. Le nouveau fléau social! On devrait faire une pétition pour que Canadian Tower arrête d'en vendre. En tout cas, tout ça pour dire que je sais pas comment l'histoire a commencé, mais bon, ils s'en prenaient à elle, verbalement. Ils m'avaient pas vu arriver. Puis un des petits morveux lui a lancé une insulte à caractère sexuel. Je me souviens pas quoi exactement, probablement que lui-même comprenait pas ce qu'il disait. Moi, j'ai vu rouge. Ma seule fille, douce, toujours agréable, souriante, gentille, innocente, exposée aux grossièretés de ce voyou. J'ai pas pu me contrôler. J'ai couru vers eux, attrapé la première trottinette que j'ai eue sous la main, puis j'ai battu le jeune vaurien avec. Comme en transe, emporté par une colère démesurée, je me suis contenté de frapper aveuglément sans trop réaliser ce que je faisais. Bam! 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 Le guidon a fini par lui défoncer le visage tellement fort que j'étais plus capable de distinguer ses traits. Je pouvais même pas dire où ce qu'étaient ses yeux ou ce qu'étaient les nombreuses plaies qui étaient laissées par le jouet de métal. Ça a pris que quelques secondes avant qu'il tombe au sol. Là, j'ai sauté à pieds joints, avec la trottinette sur ce qui restait de sa tête. Vous êtes-vous déjà amusé à casser des citrouilles à l'Halloween? Imaginez le même résultat, avec de la cervelle, du sang épais puis de la chair humaine. Une chose est sûre, il n'y aura plus jamais aucune invective qui va sortir de cette bouche-là. Quand j'ai repris vaguement contrôle de mes émotions, un attroupement s'était formé autour de nous. Je me suis sauvé en laissant ma pauvre fille adorée en pleurs sur le trottoir. Meurtre d'un enfant de 10 ans. C'est ça que je venais de commettre. Que je veuille ou non, c'était la prison à vie pas mal assurée. Je me suis réfugié chez une ancienne connaissance, un ami du secondaire que j'avais retrouvé sur Facebook. Je savais qu'il fréquentait des cercles pas trop recommandables. Je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aider à me planquer. Oh, il m'a aidé, oui. Pas longtemps après, j'avais une nouvelle identité, la citoyenneté américaine. Mais le prix à payer, faut que je travaille pour cette compagnie, une branche de l'organisation qui m'a pris en charge. Combien de temps? Une petite dizaine d'années et ma dette serait payée. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. On va bien voir. Ça fait 7 ans, là, que je fais ça. Je continue de bosser poliment, sans rechigner. Je fais des petits jobs qu'ils me demandent de faire. C'est ce qui explique ma présence dans ce motel miteux, dans le milieu du désert du Mojave, à minuit en plein été. Bon, c'est bien beau ressasser les souvenirs, mais je devrais prendre un peu de sommeil. Il me reste 6 heures de route à faire demain. Je me penche vers la table de chevet pour éteindre la lampe, et je remarque une enveloppe sur celle-ci. Elle ressemble aux enveloppes dans lesquelles la compagnie inscrit les instructions que je dois suivre. Avec un brin d'appréhension, mais habitué au boulot, j'ouvre l'enveloppe. Une note indique « Regarde dans le garde-robe », ce que je fais immédiatement. Je sors du lit, me dirige vers le garde-robe et je prends un grand respire, puis j'ouvre la porte et, sans grande surprise mais toujours avec dégoût, je constate son contenu. Un cadavre y est pendu. Si on suit à la couleur grise de sa chair, à sa langue bleutée qui pend hors de sa bouche sans couleur, ça doit faire un bout de temps qu'il est là. Avec un grand soupir, je referme la porte et je retourne au lit. Je ferme la lumière. J'ai vraiment besoin de sommeil. Demain matin, je vais décrocher la dépouille, la trimballer jusque dans le coffre de ma vieille guimbarde, puis je vais aller l'enterrer dans le désert. Puis je vais continuer ma route jusqu'à mon prochain boulot, une autre dépouille à disposer. Parce que c'est ça ma job, c'est ça qui m'en coûte de pas avoir suggéré ma colère. Mais comme je vous disais, ça pourrait être bien pire. Je pourrais être pogné dans un bureau de 9 à 5. Ça serait mortel.
David, je pense que pour cette histoire, tu pourrais certainement avoir une commandite, soit de trottinette, soit de Walt Disney.
Vous écoutez Fréquence d'Outre-Dôme, c'est pas une émission pour enfants.
Yeah, très cool l'histoire.
Merci.
J'ai senti une petite rancune envers la trottinette. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça.
Une petite vengeance personnelle envers l'espèce envahissante des skateparks.
Ouais. Bon, on va continuer avec mon histoire.
Yes, on t'écoute, mon père, j'ai bien hâte.
Ouais, écoute, tu le sais, on essaie des choses parfois à fréquence d'outre-tombe. Là, ça va être à mi-chemin entre une histoire et un témoignage. Disons que, comme toi, je m'intéresse à l'épouvante. On écrit des histoires d'épouvante. En plus, moi, c'est ça, je suis un peu un artisan de l'épouvante dans ma pratique depuis plusieurs années. Et quand même, par expérience, j'ai souvent constaté qu'il y avait une certaine forme d'interrogation par rapport à l'épouvante, à cette forme de création-là. Il y a même, voire certains préjugés. C'est souvent arrivé que j'expose certaines choses, que je participe à certains événements, et il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à ce que je faisais, il y avait beaucoup de regards suspicieux et peut-être un peu de profilage, de préjugés. On me demandait souvent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'intéresses à ça, je comprends pas. Donc, ce soir, à Fréquence d'Outre-Tombe, mon histoire, mon témoignage, ça va un peu révéler pourquoi je tourne autour de ça, l'épouvante, ma passion, mon attraction par rapport à ça.
Good. Est-ce que c'est une histoire qui s'intitule quelque chose? Ou...
Cette histoire s'intitule « Le transmetteur de messages ». Donc, quand j'étais petit, dans les années 80, mes parents se sont séparés. C'était quand même un petit peu moins tabou que dans les années 70. Il y avait un peu plus de divorces, de séparations à cette époque-là. Mais quand même, ça restait assez difficile. Je pense plus qu'aujourd'hui. Mes parents vivaient ça difficilement. J'avais 4 ans. Puis mon père, à l'époque, un peu pour peut-être avoir bonne conscience ou se faire pardonner ça, il m'avait acheté une immense télévision. J'étais un jeune enfant, j'avais une petite chambre, mais j'avais une immense télévision. Puis c'était sa façon à lui de me gâter un peu, de me consoler par rapport à cette séparation-là. Et bon, j'avais aucun contrôle parental, je pouvais écouter tout qu'est-ce que je voulais. Puis, à l'époque, qu'est-ce qui passait à la télévision le soir? À TQS, on va dire, à Télévision 4 saisons, ben, on avait les A Nightmare on Elm Street, les Freddy, bref. Jason, Friday the 13th, Jason, les Massacre à la tronçonneuse, Cimetière vivant. Vraiment toutes sortes de films qui passaient le soir, j'avais accès à tout ça. Puis, un peu plus tard, autour de minuit, il y avait un autre style de film, mais je m'attarderai pas à ça. Je vais me contenter de parler de la portion horreur qui m'émerveillait, mais faut le dire, qui m'effrayait franchement à l'époque. Quand j'étais enfant, puis je voyais tout ça, ces films-là, ces films d'horreur-là, ça m'effrayait, ça me foutait les jetons, comme disent les Français. Mais à force d'en écouter, ça a comme développé une certaine passion à travers moi. Et à l'époque, tous les films étaient vraiment réalisés sans ordinateur. C'était des vrais décors, c'était des vrais des prothèses, des maquillages d'effets spéciaux, des vrais décors qui étaient palpables, c'était tangible. Et l'univers artistique de ces films-là, Freddy, Cimetière vivant, je trouvais ça complètement envoûtant. Ça l'a vraiment, ça m'a profondément émerveillé. Ce qui fait en sorte que j'ai commencé à fréquenter des clubs vidéo, puis je me rappelle à chaque fois que j'allais dans la section films d'horreur, là, les corridors avec toutes les pochettes, les vieux VHS, les pochettes, juste la pochette des films d'horreur m'émerveillait profondément. Ça me faisait peur encore un peu, mais ça m'émerveillait tout de voir les visages balafrés, défigurés, monstrueux, de tous les titres connus des films d'horreur. Il y en avait même des plus, encore des encore plus percutants. Je me rappelle des vieux films Face à la mort. Les pochettes des VHS étaient complètement atroces. Franchement, là, c'était quand même une expérience d'aller au club vidéo dans la section horreur dans le temps. Donc, le temps a passé. J'ai cherché une manière de m'exprimer dans tout ça, puis de façon un peu naturelle, sans c'est comme si j'étais conduit naturellement à ça. J'ai atterri dans l'école de sculpture à Québec, puis de façon un peu mystérieuse, je me suis mis à fabriquer, à sculpter tout ce que j'avais vu durant mon enfance dans les films d'épouvante, puis à construire tout un univers artistique autour de cela. J'ai commencé à faire des expositions, à participer à toutes sortes d'événements, avec les choses que je fabriquais, que je sculptais. Puis, c'est ça, ça provoquait beaucoup de réactions, des réactions mitigées. Les gens trouvaient ça mystérieux, mais certaines personnes étaient fâchées, puis un peu perturbées. Puis moi, naturellement, j'exprimais mon univers artistique par rapport à l'horreur, à l'obscurité, à l'épouvante. Et souvent, j'avais des questions. « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'intéresses à ça? » Puis je répondais toujours que, justement, il y a le fond et la forme. La forme, c'est justement l'inspiration des films d'horreur, la musique métal, les pochettes d'albums... Quand je me référais à ça, les gens comprenaient un peu qu'est-ce que je faisais, où je voulais en venir. Mais au niveau du fond, ce que je leur disais pas, c'est que depuis des années, quand je me couchais le soir, j'avais des visions, j'avais des cauchemars. Je comprenais qu'est-ce qui s'en venait pour l'humanité. Ce que j'exprimais, ce que je sculptais, c'était les visions un peu de la fin de l'humanité qui s'en viennent. Je le disais pas vraiment parce que je voulais pas les décevoir dans ce qu'ils aspiraient comme être humain. Mais moi, je le sais que la fin s'en vient. Qu'aujourd'hui est pire qu'hier, mais sûrement bien mieux que demain. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu le sais toi aussi, David, que la fin de l'humanité s'en vient, hein?
Oh oui, on le sait, l'apocalypse est déjà bien entamé. Merci pour cette confidence. Pat, écoute, on va te demander à l'occasion peut-être d'utiliser tes pouvoirs surnaturels pour nous indiquer ce qui s'en vient.
Ouais, ben là, il s'en vient un beau retour en studio à CKRL pour la fin de la saison. Écoute, ça fait déjà presque un an qu'on anime Fréquence d'Outre-Tombe.
En un an, il s'en est passé des affaires. On a vu les loups-garous.
Ouais.
On a exaucé des souhaits.
T'as eu un flirt avec un fantôme.
Avec un fantôme. Écoute, on a regardé dans l'avenir, en 2050, alors que les gens, faut qu'ils
c'est vrai.
Se cannibalisent pour nourrir leur famille.
Voilà. Donc, c'est ça, Fréquence d'Outre-Tombe. C'est...
Tout ça et plus, tous les lundis, 23h. Merci d'avoir été à l'écoute.
Merci, bonne soirée.